Les crises se multiplient et se superposent, a déclaré ce jour le général Burkhard, chef d'état-major des armées françaises, dans une conférence de presse exceptionnelle lors de laquelle il a également indiqué que la Russie considérait la France comme son premier adversaire sur le continent. Une formulation claire de l'application de la loi Log périodique à la confrontation géostratégique mondiale, au moment où la stratégie trumpienne de couvercle sur la marmite semble déjà montrer ses limites. Des mollahs iraniens ont lancé une fatwa contre lui et on parle de plusieurs dizaines de millions de dollars de récompenses à qui parviendrait à tuer le président des États-Unis. Sur le front ukrainien, ce dernier est contraint de convenir que Poutine dit des conneries et que des annonces importantes seront faites dans les prochains jours, annonçant d'ores et déjà de nouvelles fournitures d'armes à l'Ukraine via l'OTAN, alors que la Russie a battu un nouveau record de frappe avec plus de 700 vecteurs dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Le temps des clashs est-il enfin venu ? Bonjour, je suis Philippe Fabry, bienvenue. Nous sommes le 11 juillet 2025, il est 21h55, nous sommes en présence de l'introverti Léo Portal. Je crois qu'on a fait une faute sur Twitter et qu'on a écrit intraverti, ce qui fait que certains ont lu un peu rapidement et se sont inquiétés. Mais non, tout va bien, n'est-ce pas mon cher Léo ?
Mais alors, si je suis introverti, je ne sais pas si je dois parler. Je voulais,
Ah.
tu vois, débrancher mon micro et faire un long silence.
Bien vu, ça aurait été pas mal, mais c'était peut-être trop subtil à cette heure-ci pour que les gens et que moi-même je comprenne la blague. Ce soir, donc, nous sommes le live de la semaine, nous répondrons aux questions de nos aimables souscripteurs lors du live privé qui suivra, et nous répondrons uniquement aux questions de dons à la fin de cette émission en public. Il m'a semblé nécessaire de revenir sur le sujet de la semaine dernière parce qu'il continue, mine de rien, à se développer peut-être plus vite que ce qu'on attendait, puisque voici que Donald Trump a annoncé qu'il ferait des annonces. Alors, c'est un peu une réunion dans le sens d'une mise en œuvre, mais c'est quand même il y a quand même quelque chose, parce que s'il commence à annoncer qu'il y aura des annonces, en général, il y a des annonces qui suivent, quelle qu'en soit la nature. Mais surtout, disons que ça fait assez système avec des choses qu'on a vues la semaine dernière et qui sont quand même, je pense, importantes. Ces choses, c'était que, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, les Chinois auraient dit, c'est le ministre des Affaires étrangères chinois qui aurait indiqué à la chef de la diplomatie européenne, lors d'une discussion privée, je crois que ça a été démenti, mais bon, l'information est sortie, elle est vraisemblablement vraie, elle paraît d'autant plus vraisemblablement vraie qu'elle correspond exactement à ce qu'on pouvait penser depuis longtemps déjà, à savoir que les Chinois n'accepteraient pas une défaite russe en Ukraine, parce qu'ils craindraient à ce moment-là que les États-Unis ne soient plus occupés en Europe, et donc qu'ils puissent retourner entièrement leurs forces contre la Chine, justement, et pour contenir la Chine, de l'autre côté du monde. Or, si nous avons commenté, et si cela a été commenté en Europe, ce propos des Chinois, et alors même que j'avais rappelé la semaine dernière à quel point ça faisait ça aussi écho à ce que pensent déjà les Américains, hein, encore une fois, c'est ce qu'avait dit Pitexet en disant c'est aux Européens de dissuader la Russie en Europe parce que nous, on n'a pas les moyens de tout faire et il faudra qu'on s'occupe de la Chine. Eh bien, donc, ça a été commenté en Europe et il aurait été effectivement étonnant que ça ne tombe pas également dans l'oreille de Donald Trump. Cette idée que, pour les Chinois, la guerre en Ukraine est importante. Alors, il y avait déjà eu des éléments dont on avait parlé. Je rappelle qu'il y avait eu des exercices, il y a eu des présences de troupes chinoises en Biélorussie il y a je crois que c'était l'année dernière. Déjà, ça devait alerter, ou c'était au début de l'année, ça devait alerter côté trumpien. Mais aussi, il y a eu, en plus cette semaine, les messages de Mark Rutte, à qui on peut faire beaucoup de reproches, notamment l'envoi de ces SMS un peu obséquieux à l'égard de Donald Trump, etc. Mais d'une certaine manière, il sait lui parler, il sait comment attirer son attention. Et il y a eu cette sortie sur Donald Trump, sur pardon, la Chine, en expliquant que, déjà en faisant un état des lieux assez catastrophique, encore une fois, il insiste beaucoup régulièrement là-dessus, Mark Rutte, sur le fait que, au niveau base industrielle de défense, on est de plus en plus à la ramasse face à une Russie qui met le paquet. Mais aussi et surtout, il a évoqué l'idée possible d'une coordination russo-chinoise dans les assauts contre l'Occident. C'est-à-dire qu'en gros, le jour où Taïwan voudrait attaquer, le jour où la Chine voudrait envahir Taïwan, et on a vu ces jours-ci qu'elle avait fait une démonstration là, de bâtiments, de chars, semble-t-il, amphibies en quantité. Il y en avait plusieurs dizaines. On a vu les images sortir aujourd'hui des chars amphibies chinois, c'est-à-dire qui plongent dans la mer et qui avancent. Alors, je ne sais pas s'ils peuvent faire les quelques 100 km qu'il y a entre la côte chinoise et Taïwan, mais enfin, ça envoie un signal, naturellement. Et donc, ça dit Mark Rutte, c'est que les Chinois pourraient demander à Vladimir Poutine d'attaquer l'OTAN, hein, donc, par exemple les pays baltes, en Europe pour avoir eux-mêmes les mêmes libres pour aller à Taïwan. Alors, comme je l'ai dit l'autre jour, je pense que j'ai du mal à imaginer un tel degré de coordination parce que, au fond du fond, la Chine et la Russie sont malgré tout plutôt des alliés objectifs, c'est-à-dire qu'ils ont un intérêt commun contre les États-Unis. Et malgré les déclarations d'amitié sans limite, on sait qu'il y a de la méfiance, entre les deux. Ne serait-ce que partie partage une frontière et donc ce genre de puissances ont du mal à partager une frontière directe. Mais c'est vrai qu'il y a une intégration. Vous savez, je fais le parallèle souvent entre la Chine et entre le Japon et l'Allemagne pendant les forces de l'Axe. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de coordination entre l'Allemagne et le Japon. Ça a même souvent raté. Hitler, par exemple, avait déclaré la guerre aux États-Unis en espérant que, peu après Pearl Harbor, en espérant que les Japonais, eux, déclareraient la guerre à l'Union soviétique et que ça libérerait un peu, que ça allégerait le fardeau de la Wehrmacht sur le front russe. Et les Japonais n'en ont rien fait. Donc, c'était plutôt chacun qui jouait sa partition de son côté. Mais c'est vrai que, à la fois, la Russie et la Chine sont plus territorialement connectés, ils sont plus économiquement intégrés aussi, et ils sont aussi plus militairement intégrés puisqu'ils ont, ils partagent, ils font des exercices réguliers depuis plusieurs années ensemble. Et en plus, depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a compensé sa sortie d'un certain nombre de circuits d'échanges internationaux du fait des sanctions par un approvisionnement du côté chinois. J'en ai reparlé la semaine dernière. Donc l'intégration est beaucoup plus forte, alors l'idée de la coordination n'est pas totalement écartée. Mais que cela soit sûr ou que ce soit pas sûr, de toute façon, ça remet effectivement Donald Trump face à un problème, qui est que la stratégie de Donald Trump, c'était vraisemblablement, encore une fois, la stratégie de Kissinger à Nixon inversé, hein, ce que j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, c'était l'idée, comme à l'époque, puisque toute la stratégie de Donald Trump face à la Chine est une ressucée de la stratégie américaine de Nixon puis Reagan contre l'URSS, eh bien, là, parmi ces stratégies, il y a un volet stratégique diplomatique qui était la reprise de la diplomatie triangulaire de Nixon et Kissinger, qui consistait à détacher à l'époque la Chine de l'URSS pour isoler l'URSS. Bon, en fait, il s'agirait de faire la même chose avec la Russie, essayer de détacher la Russie de la Chine pour isoler la Chine. Le problème, c'est qu'on n'est pas du tout dans la même configuration, hein, là aussi, parce que défaut d'analyse historionomique, le problème, c'est que l'URSS était un ancien régime et la Chine de l'époque, un nouvel ancien régime en construction, on va dire, alors que la Russie aujourd'hui est un impérialiste revanchard et centré dans son combat contre l'Amérique et surtout à des visées hégémoniques essentiellement en Europe, et donc qui est un endroit où elle n'est pas en concurrence avec la Chine, et donc où elle a tout intérêt à être uniquement en opposition avec les États-Unis. Donc la stratégie de Donald Trump, qui visait à jouer l'apaisement vis-à-vis de Vladimir Poutine, est en train d'échouer. Et donc, le problème, c'est pas juste que visiblement Poutine ne veut pas faire de cessez-le-feu et qu'il continue à bombarder, ça oui, mais c'est aussi qu'il y a eu ces actualités à propos de la Chine, ces informations qui sont sorties à propos de la Chine, et ce discours, cette analyse de la position chinoise, qui doivent aider Donald Trump vraisemblablement à prendre conscience du fait que lui qui veut régler le problème chinois, eh bien, sa stratégie de détachement de la Russie par rapport à la Chine ne fonctionne pas. Et c'est peut-être même ce que Donald Trump aurait tendance à reprocher le plus à Vladimir Poutine, peut-être encore plus que la guerre en Ukraine, c'est le fait de ne pas vouloir se détacher de la Chine. Puisque je vous rappelle que, d'après moi, mais je veux dire, ça reste ma position parce que c'est la seule interprétation de l'attitude diplomatique de Donald Trump depuis 6 mois qui fait sens au regard de tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que l'autre alternative, c'est de penser qu'il fait absolument n'importe quoi, qu'il enchaîne les revirements sans aucune cohérence. Et c'est pas très satisfaisant pour l'esprit. Alors que ça tâtonne, certes, mais je pense qu'il y a une idée directrice, et ça je l'ai déjà dit. Son idée directrice, c'était qu'il aurait Vladimir Poutine, je le répète, excusez-moi, mais je le répète régulièrement, mais c'est important de l'avoir en tête pour le raisonnement. Son idée, c'était d'offrir une sorte de pardon impérial à Poutine en lui disant, écoute, je te laisse garder la face dans ton conflit, tu gardes ce que tu as pris, mais t'en prends pas plus. Par contre, tu n'auras rien de plus, hein, tu n'auras pas de retrait de l'OTAN, tu n'auras rien du tout, tu renonces à tous tes buts de guerre, mais je te réintègre dans le concert, on va dire, occidental en levant les sanctions. Je vous ai expliqué à maintes reprises pourquoi c'était un calcul qui était tout à fait foireux, parce qu'il était évident que Vladimir Poutine ne le suivrait pas, qu'il avait déjà fait ce choix-là en envahissant l'Ukraine. Mais c'était l'idée qu'avait Donald Trump, d'autant plus que Donald Trump pensait qu'il n'aurait jamais envahi l'Ukraine si c'était lui qui avait été président. Donc il pouvait se dire, il va refaire le calcul depuis le départ, on va dire. Mais c'était évident que ce n'était pas le cas. Et moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que Donald Trump va finir par se rendre compte de ça, que ça ne fonctionne pas. Et à la fin, s'il y en a un qui est capable de tenir tête à Poutine, une fois qu'il aura compris, en tout cas, compris lui ou fait comprendre à son électorat, parce que c'est l'autre problème, mais en fait, c'est le même problème, hein, de toute façon, et peu importe ce qu'il y a dans la tête de Donald Trump, puisque ça colle avec le problème de son électorat, qui est que son électorat ne veut pas de guerre. Et pour une partie, pro-russe. Et donc, il n'avait pas trop c'était logique dans sa démarche de se lancer de la sorte et d'essayer de faire cette stratégie, on va dire, du pardon impérial à Vladimir Poutine. Simplement ça impliquait que Vladimir Poutine accepte de l'autre côté, qu'il accepte tout ça. Bon, nous, on savait que ça ne serait pas le cas, on l'avait dit ici, donc ça ne surprend personne. Pour Donald Trump, en revanche, lui, je pense qu'il s'attendait à ce que ça fonctionne. Il pensait que ça fonctionnerait. Encore une fois, parce qu'il a certains outils qu'on n'a pas et certaines conceptions des choses qui sont sans doute erronées, notamment à propos de Vladimir Poutine lui-même. Et tout ceci fait que son évolution est assez logique. Elle prend du temps, elle est longue. Je conçois tout à fait, et beaucoup l'ont relevé, qu'il a laissé beaucoup de temps à Poutine en disant on verra dans 15 jours, on verra dans 15 jours, on verra dans 15 jours. Effectivement, c'est un côté ridicule, effectivement, c'est un côté, on va dire, c'est un côté. Quand vous voulez pas punir votre gosse, vous savez que vous dites attention, ça va barder, ça va barder. Ou quand vous lui reprochez, ou quand vous savez, vous voulez obtenir quelque chose de votre enfant et vous lui dites attention, sinon on va pas là demain, à tel endroit. Bon, sauf que vous savez que la sortie elle est prévue, vous avez déjà payé, donc vous savez que vous allez y aller. Simplement, il faut faire en sorte que. Bon. Donald Trump, il est un peu dans cette position-là, c'est-à-dire que sa stratégie vis-à-vis de la Russie et dans le cadre du containment de la Chine, c'est vraiment quelque chose qu'il estime ne pas pouvoir lâcher. Et donc, naturellement, il ne veut pas se brouiller avec Poutine. Et c'est pour ça que on peut lui reprocher d'avoir donné l'impression de jouer l'apaisement, d'être trop gentil avec Vladimir Poutine, etc. Ce qui est vrai d'un certain point de vue. Même si par derrière, les services américains ont fait souvent ce qu'il fallait pour montrer à la Russie, malgré tout, qu'ils étaient là. Mais dans le discours, il y avait un côté, il fallait à tout prix que Vladimir Poutine se sente et l'impression de sortir en position de force. Même l'idée de Trump, c'était vraisemblablement de lui faire sentir qu'il n'était pas en position de force, tout en lui permettant de sortir de la guerre comme s'il était en position de force pour pas perdre la face. C'est ça l'idée de Donald Trump, c'est il faut pas le braquer. Voilà, je sais qu'il a perdu, il sait qu'il a perdu, mais devant tout le monde, on va faire en sorte qu'il n'ait pas l'air d'avoir perdu. C'est le principe d'un pardon impérial, hein. Il faut pas humilier le type auquel vous pardonnez. Alors, ça peut être choquant pour tout un tas de raisons morales, et je suis d'accord avec ça. Bon, maintenant, moi, ça me gênait moins dans la mesure où je savais que de toute façon, ça ne marcherait pas. Hein, qui ne serait pas pardonné à la fin puisque ça ne marche pas. Simplement, tous les raisonnements comme quoi c'est parce que Donald Trump aime les hommes forts, c'est parce que Donald Trump admire Vladimir Poutine, etc. Tout ça, vous voyez bien que c'est des conneries, ça ne tient pas. Et donc, on est malgré tout, au bout d'un moment, en train d'arriver au bout de ça, parce que ça ne peut pas durer indéfiniment. Donald Trump ne peut pas, tous les 15 jours, dire « Attention, ça va barder, attention, ça va barder. » Parce qu'au bout d'un moment, c'est lui qui a l'air ridicule. Et il le sait très bien. Il le sait très bien. Et en plus, il voit cette stratégie chinoise se déployer. Pas seulement au niveau de la Russie. Il s'est dit aussi, d'après les informations à l'air fiable, que depuis le cessez-le-feu en Iran, les Chinois ont livré des matériels, des radars, des batteries antiaériennes, etc., à l'Iran pour l'aider à se reconstruire. C'est-à-dire que la Chine n'est pas intervenue pendant les bombardements, et vraisemblablement ça aurait servi à rien parce que le problème c'est que tout aurait probablement été détruit au fur et à mesure. Mais là, ils sont en train d'aider l'Iran sous couvert du cessez-le-feu à se remettre finalement en ordre de bataille pour être capable à nouveau de tenir son rang. Les Houthis ont recommencé à frapper. Ils ont coulé un ou deux cargos là cette semaine, alors que là aussi Donald Trump avait décidé un cessez-le-feu un peu unilatéral après avoir fait des frappes assez dures. Et donc voilà pourquoi je dis qu'on arrive aux limites de cette stratégie Trump. Et il y a quelque chose d'intéressant sur quoi il faut s'arrêter malgré tout là-dessus, sur cette stratégie Donald Trump, cette stratégie du couvercle sur la marmite. Parce que rétrospectivement, ce qui s'est passé ces 2 derniers mois donne énormément d'enseignements sur justement la façon dont il fallait analyser toute l'affaire en Ukraine. Dans le sens où toute l'affaire en Ukraine, encore une fois en Occident, a été, et vous avez beaucoup de journalistes et d'analystes et de commentateurs qui restent sur leur vision précédente du conflit parce qu'ils n'arrivent pas du tout à actualiser tout ça, et donc ils restent sur l'idée que Trump est bête et méchant et qu'il admire Vladimir Poutine. Mais c'est que en réalité, alors que les gens aient cru ça au moment où il n'y avait que l'Ukraine, ça pouvait se comprendre. Bon, mettons. C'était idiot, je le disais déjà à l'époque, mais si les gens avaient que ça pouvait se comprendre. Bon. Mais quand vous voyez que la tentative de cesser le feu, simple, de figer le conflit, de faire en sorte qu'on arrête de se battre, hein, qu'il a essayé d'obtenir en Ukraine, et qui était vu par les Européens et par les commentateurs, encore une fois, comme un geste fait en direction, en gros, de céder à Poutine. Ben en fait, vous apercevez que c'est ce qu'il a fait en réalité partout. C'est-à-dire que, il a voulu la même chose entre l'Inde et le Pakistan. La question de son rôle exact dans ce cessez-le-feu est mise en question, mais enfin, c'est ça qu'il voulait. Il a fait la même chose entre Israël et l'Iran. C'est-à-dire, il a dit, cessez le feu, on arrête, on ne bouge pas. Fait un petit bombardement de B2 pour donner le ton, mais il a dit à Israël les mêmes choses qu'il a dit à l'Ukraine, en réalité. Et il a vraisemblablement aussi dit à Netanyahou, parce que vous savez, ça a été démenti, mais à un moment, il a beaucoup été question du fait que Trump était très en colère en privé contre Netanyahou, en disant qu'il cherchait à l'attirer dans une guerre, que lui n'avait pas envie de faire la guerre pour les autres, etc. En fait, tout ce qu'a dit Donald Trump à ce moment-là, et tout ce qu'il a été dit que disait Donald Trump, c'est d'autant plus vraisemblable que c'est parfaitement cohérent, parce qu'en fait, c'est exactement la même chose qu'il disait de Zelensky déjà. C'est-à-dire, je ne veux pas être entraîné dans une guerre, je ne veux pas qu'il y ait des gens qui pensent qu'ils peuvent faire leur guerre avec la force américaine et avec l'argent des contribuables américains. Alors, entraîner des Pakistanais, c'est un peu différent. Les Américains n'avaient pas de billes directes, mais c'était aussi une idée de geler. Donc, vous voyez qu'il y a quand même deux principes très importants pour Donald Trump, malgré tout. En dehors de la stratégie générale, encore une fois, c'est que sur chaque conflit, il y a une double position. Un, il ne veut pas qu'il y ait de conflit. Hein, c'est-à-dire là aussi, c'est vision très impériale, vous ne vous tapez pas. C'est-à-dire on sépare les gens dans la cour de récré. Hein, je veux pas savoir qui c'est qui a commencé, vous arrêtez ça tout de suite. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est je ne veux pas que les États-Unis soient utilisés par certaines de leurs alliés pour régler leur compte à leur place et en payant à leur place. Et ça, vous voyez, encore une fois, qu'il a fait la même chose avec l'Ukraine et qu'il a fait la même chose avec Israël. Et je pense que la seule raison pour laquelle Israël est globalement mieux traité malgré tout que l'Ukraine, publiquement, etc., c'est parce que, tout simplement, dans l'électorat américain et en particulier dans l'électorat de Donald Trump, comment dire, la sympathie pour Israël est beaucoup plus forte que la sympathie pour l'Ukraine. Et je pense que c'est la seule raison qui différencie le truc. C'est pas du tout une question de savoir si Trump aime Poutine, qu'il aime pas Zelensky. Vous savez qu'il a un contentieux personnel avec Zelensky, il a entendu énormément de conneries là-dessus. Je pense pas du tout. Je pense que c'est beaucoup plus premier degré que ça. C'est fondamentalement la façon dont Donald Trump conçoit la politique étrangère américaine et les intérêts des États-Unis d'Amérique. Et donc, tout ce qu'on a vu ces deux derniers mois, et ces derniers mois, il y a quand même eu l'affaire indo-pakistanaise et l'affaire israélo-iranienne, vous donne les clés de compréhension de ce qui s'est passé et de ce qui continue à se passer au niveau de l'Ukraine et de la Russie. C'est-à-dire que ce que veut Donald Trump, c'est un cessez-le-feu pur et simple. Simplement, la différence, c'est que dans les deux autres cas, il est tombé sur des gens qui ont accepté le cessez-le-feu, que ce soit entre le Pakistan et l'Inde et entre Israël et l'Iran. Alors qu'en Russie, il y a quelqu'un qui n'accepte pas le cessez-le-feu, c'est Vladimir Poutine. Et ça commence à se voir. Ça commence à se voir et Donald Trump est obligé de le constater. Il ne peut pas ne pas le constater, il serait idiot de l'ignorer. Et ça vous explique pourquoi il est en train d'avoir son discours qui évolue en expliquant que, effectivement, Vladimir Poutine dit des conneries. Même quand il dit « je ne sais pas ce qui lui arrive », etc., je pense qu'il y a encore une fois que, entre l'hypothèse du pur calcul chez Donald Trump et la naïveté, je pense que c'était la naïveté qu'il fallait admettre, dans le sens où il pensait véritablement qu'il n'y aurait pas eu de guerre en Ukraine si les démocrates n'avaient pas merdé. Bon. Et là, il est en train de se rendre compte, malheureusement, que enfin, heureusement qu'il s'en rend compte, mais malheureusement, c'est un état de fait. La Russie a voulu cette guerre et a été effectivement l'agresseur et continue d'être l'agresseur dans cette guerre. Et il n'y a pas moyen de la faire entendre, de lui faire entendre raison. Et en plus, elle se renforce. Et en plus, ça risque d'être catastrophique parce que si jamais l'Ukraine venait à s'effondrer, ça jouerait en faveur de la stratégie chinoise, qui est désormais une stratégie avouée, qui est que si les Américains pouvaient être complètement embourbés en Europe, ça serait l'idéal pour Pékin. Et donc, je pense que tout ceci vient à l'esprit de Donald Trump, qu'il est en train de le comprendre. J'ignore combien autour de lui, peut-être Rubio, peut-être d'autres, lui expliquaient déjà avant. Il y a aussi une autre chose importante, malgré tout, c'est que Elon Musk, qui était plutôt une influence qui avait ses présupposés, on va dire, contre les Ukrainiens, même s'il les a aidés aussi. Hein, il ne faut pas faire d'Elon Musk simplement un pro-russe, mais il avait une certaine vision du conflit, on va dire, et de Zelensky, qui n'était pas forcément dans le sens d'un soutien accru à l'Ukraine, hein, qui était dans l'idée on arrête tout de suite le combat. Bon. Et donc le fait qu'il y ait eu la brouille entre Elon Musk et Donald Trump a sans doute aussi ouvert un espace, ou en tout cas renforcé un certain camp dans l'influence autour de Donald Trump sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il est devenu capable d'entendre et de comprendre qu'il y avait un problème dans le comportement de Vladimir Poutine. Et c'est là qu'arrive les déclarations du général Burkhardt qui sont très très intéressantes. Je vous encourage à écouter sa conférence de presse. Il indique notamment, alors je ne sais plus quel est le nom de l'indice qu'il cite, mais qui montre que dans les années 90, je crois, alors je ne sais plus quel est l'indice encore une fois, mais grosso modo, c'est un indice qui recensait les conflits dans le monde. Je crois que dans les années 90, il disait, il y a une trentaine d'années, il y en avait, je crois, une trentaine ou une quarantaine à l'échelle du monde, et aujourd'hui, l'indice en recensait 130, ce qui montre qu'il y a une augmentation des tensions et des conflits dans le monde, sur ce plan-là. Et surtout, il avait cette constatation, et c'est pour ça que je l'ai mis en exergue dans mon introduction, je trouvais ça très intéressant. Je vous parle souvent du problème de la loi log périodique, c'est-à-dire le fait que quand il y a une crise qui doit arriver, pour régler l'état du monde et bouleverser et arriver à autre chose, un orage si vous voulez, c'est-à-dire quelque chose, une confrontation qui doit amener à un rééquilibrage, vous allez avoir souvent, alors ça s'observe en sismologie, ça s'observe dans d'autres domaines aussi, ça s'observe dans les domaines de l'évolution par exemple, vous avez une accélération des crises avec des crises de plus en plus fréquentes et de plus en plus forte, jusqu'au moment où il y a la supercrise, en gros, ou l'hypercrise, qui est la crise catastrophique qui va transformer et rééquilibrer totalement l'ordre. Et finalement, la formulation de Burkhardt, c'est ça. C'est-à-dire qu'il explique, il dit explicitement, quasi mot pour mot, avant on disait souvent qu'une crise chassait l'autre, et il dit maintenant c'est plus le cas, les crises elles se multiplient, se superposent. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de crises de plus en plus souvent, et ça, c'est ce que je vous disais qui arriverait, parce que c'est lié aussi à la théorie du gendarme occupé. Encore une fois, Je veux pas repartir en détail à chaque fois sur des choses que j'ai l'impression de dire très souvent, donc je veux pas trop me redire. Mais c'est vrai que c'est cette idée que le fait que vous ayez une puissance dominante qui chapeaute l'ordre mondial, comme les États-Unis, ça a tendance à geler tous les conflits tant que les conflits sont gelés, et à dégeler simultanément tous les conflits dès qu'il y en a qui commencent à se dégeler, si vous voulez, d'une certaine manière. Donc forcément, c'est les plus gros conflits qui se dégèlent les premiers, ceux qui ont les plus gros acteurs, c'est-à-dire ceux dont les acteurs sont capables de défier l'hégémon, donc en l'occurrence la Russie en Ukraine, éventuellement la Chine ailleurs, et vous avez tout un tas d'autres petits conflits qui sont capables d'éclater. Vous avez des conflits qui peuvent éclater partout comme ça, et la stratégie de Donald Trump, finalement, c'est une stratégie assez logique de la part d'un pouvoir impérial dans une telle situation, c'est qu'il s'agit systématiquement d'éteindre les incendies juste au moment, dans l'œuf, au moment où ils se déclenchent, pour éviter de se retrouver justement dans la situation où vous êtes très occupé à un endroit, et donc vous ne pouvez pas vous occuper d'ailleurs, et donc vous avez des incendies, et à la fin vous vous retrouvez avec le monde entier qui est en flammes, et vous devez tout régler. Et là, c'est ça le principe de la guerre mondiale, en fait. Et la prise de conscience qu'il doit y avoir de la part de Donald Trump, peut-être est-il en train de l'avoir, on verra en fonction de ce qu'il décidera et de ce qu'il doit annoncer à partir de lundi, mais la prise de conscience consisterait justement à se rendre compte que éteindre les feux séparément, ça ne suffit pas, qu'il y a un très gros feu qui va finir par démarrer à un endroit, et qu'il faut se préparer à affronter ce très gros feu-là, en priorité. Et le très gros feu, c'est cette alliance du bloc russo-chino-iranien, ajouter la Corée du Nord, ajouter les Houthis, ajouter un certain nombre de satellites, qui menace l'ordre américain sur le monde. L'Iran n'est pas tombé. Alors, faut se méfier, encore une fois, je crois que je l'avais dit la dernière fois, mais Milosevic, lui, il était tombé en Serbie un an après la fin des bombardements. Donc, à partir du moment où il est discrédité, il peut tomber plus tard, le Khamenei. Mais étant donné que ils sont quand même soutenus par la Chine qui leur amène, semble-t-il, du matériel, etc., c'est douteux. Et en plus, s'ils commencent à balancer des fatwas, alors c'est pas Khamenei qui a balancé une fatwa, mais en fait, c'est sans doute ça, deux mots-là assez en vue. On a vu Khatami aussi, qui est membre du Conseil de la Révolution, qui a tenu des propos extrêmement féroces en disant que Netanyahou et Trump devaient mourir, en gros, je crois, qu'ils devaient être châtiés. Ben, forcément, ça donne pas le sentiment que ces gens-là sont ouverts à la négociation. D'autant plus qu'il y a toujours les problèmes autour de l'AIEA, puisque vous savez que l'Iran a décidé, son parlement a voté de ne plus accepter les contrôles de l'AIEA. Et ils ont déclaré également qu'ils se relanceraient dans des opérations importantes, d'enrichissement, mais pas que, je crois, de réarmement aussi, si jamais la France, j'ai perdu le nom du groupe des trois, mais la France, l'Angleterre et l'Allemagne, décidaient d'activer auprès de l'AIEA les systèmes de remettre en place les sanctions qui avaient été levées du fait de l'acceptation de contrôle de l'AIEA, en fait. Et donc, on voit que l'intention, malgré tout, iranienne est de repartir dans une confrontation et de ne rien laisser tomber. Ce qui n'est pas étonnant. Parce qu'encore une fois, le régime n'est pas tombé. Donc le régime, il poursuit avec ses buts, et donc tant qu'il survit, il survit avec ses buts. S'il est renversé, bon, ses buts tomberont avec. Et encore une fois, peut-être que c'est en gestation à ce stade-là. Encore une fois, je ne pense pas, dans la mesure où les pasdaran sont toujours en position de force à l'intérieur du pays, et que vraisemblablement, ils ont rajouté une purge qui n'a pas rencontré de grosses manifestations, donc ça n'a pas fonctionné. Et voilà, mais vous avez d'autres régions de conflit aussi qui risquent de s'activer. Vous avez notamment un autre front dont je parlais dans l'Atlas des guerres à venir. Vous savez, dans l'Atlas des guerres à venir, j'évoquais à un moment de la confrontation géostratégie mondiale qu'il y aurait dans le conflit un sous-conflit entre la Turquie et la Russie, hein, tout simplement parce que la Turquie poursuit ses ambitions en direction de l'Asie centrale, et qu'en fait, aucun pays probablement n'a autant intérêt à la chute de la Russie et de la Chine que la Turquie, puisque ça lui ouvrirait son espace en direction de l'Asie centrale, et qu'il semble qu'il y ait. Alors, j'ai pas trouvé de confirmation encore, hein, depuis le bulletin public que j'avais fait. C'était à 10 jours et j'ai pas trouvé de confirmation cette semaine. Mais ça, c'est pas démenti et ça semblerait logique. Il semble véritablement qu'il y a un accord qui a été trouvé entre l'Arménie et la Turquie pour le corridor, et donc aussi l'Azerbaïdjan pour le corridor de Zanguezour. D'ailleurs, Aliyev et Pachinian se sont rencontrés, alors je crois que c'était à Abu Dhabi aujourd'hui, pour négocier là-dessus. Et ça, encore une fois, le corridor Zanguezour, c'est très important pour la Turquie parce que bon, ça réunifie d'une certaine manière le territoire d'Azerbaïdjan avec l'exclave du Nakhitchevan. Mais à travers le Nakhitchevan, ça donne à la Turquie une route directe et une capacité de projection en direction, à travers la mer Caspienne, en direction de l'Asie centrale, donc de tout l'espace turcophone, qui sont essentiellement des républiques ex-soviétiques et donc que la Russie considérait dans son aire d'influence, dans sa sphère d'influence. Et la montée en pression entre l'Azerbaïdjan et la Russie, où ils se sont arrêtés des types des deux côtés, ils se sont accusés de manipulation, de propagande et de complot, se renforce énormément. Et dans le même temps, la Russie a accéléré, semble-t-il, le redéploiement de personnel dans la base de Gyumri, ce qui est sa base militaire en Arménie, qui avait été un peu délaissé depuis le début de la guerre en Ukraine parce que tout le matos et les hommes avaient été envoyés en Ukraine, il semble y remettre des gens. Donc, on a le front qui s'ouvre pas encore, mais des tensions qui réapparaissent sur ce qui était prévu, encore une fois, par la théorie, comme étant un front naturellement, entre la Turquie, et une Turquie en pleine expansion, et l'impérialisme revanchard russe. Donc je pense que ça aussi, ça va être à surveiller, mais c'est pour vous montrer que voilà, les tensions se déploient un peu partout. Je constate aussi, alors bon, ça c'est un peu plus au doigt mouillé, on va dire, mais que sur les chaînes d'info en France, on entend de plus en plus parler, enfin il y a une espèce d'accélérationnisme du discours, c'est-à-dire qu'on sent que ça devient de plus en plus crédible pour les gens, le fait qu'il y ait une guerre directe Russie-OTAN. Ça paraît de moins en moins, parce que souvent c'était évoqué de temps en temps, hein, pour dire après l'Ukraine l'année prochaine, mais là de plus en plus, il est question de choses comme ça. Surtout quand on voit la quantité énorme de drones maintenant que les Russes balancent, et qu'il y a de plus en plus la perspective que finisse par arriver un effondrement ukrainien, d'autant plus à mesure que la guerre dure, puisque on va dans 6 mois, on entrera dans la 4e année, et tout le monde, naturellement, dans ce conflit qui ressemble beaucoup à la guerre de 14, en tout cas au niveau guerre de tranchées, guerre d'attrition, tout le monde sait que quand vous arrivez à 4 ans, ça peut commencer à devenir dangereux pour un des côtés, et qu'il y a un risque d'effondrement. Et vraisemblablement, d'ailleurs, c'est ce que pense Vladimir Poutine, qui a un effondrement ukrainien qui est à portée. C'est pour ça qu'il donne tout et qu'il veut remporter en fait sa victoire stratégique. Vladimir Poutine est revenu, grosso modo, dans la position qui était la sienne en 2022, c'est-à-dire que son calcul, encore une fois, je le rappelle, l'invasion de l'Ukraine était perçue comme une démonstration de force à l'égard de l'OTAN pour pousser une renégociation de l'architecture de sécurité en Europe à l'avantage de la Russie. Ça a failli très mal se passer. Ça s'est mal passé, il faut dire ce qui est. Mais la Russie, en y mettant, en se mobilisant complètement, en fait, et de plus en plus complètement dans cette affaire, poursuit ce but, ce qui est typiquement impérialiste revanchard, d'escalader beaucoup plus vite que les autres. C'est un truc que je vous dis depuis le début, ça aussi. Et donc, il est toujours dans la même mentalité. Donc, il a ce but-là et il le poursuivra encore une fois. Et donc, de deux choses l'une, soit il attaquera les États baltes parce que ça bloquera trop en Ukraine, peut-être si Donald Trump. Ça, à mon avis, on sera dans le scénario japonais. Si Donald Trump se met à fournir à nouveau beaucoup d'armes, alors semble-t-il que là, il les fera payer par l'OTAN. Donc l'idée, c'est faire payer les Européens pour fournir des armes. Enfin, au moins, ils fournissent des armes à l'Ukraine. Puis c'est un moyen aussi, à voir si c'est effectivement payé par les Européens, mais c'est un moyen de dire à son électorat que ben, c'est pas les États-Unis qui payent. Mais donc, s'il fournit des armes et qu'en plus, il décidait de faire passer le paquet de sanctions extrêmement lourd qui est en vogue actuellement, qui est décidé, c'est l'INSEE Graham notamment, mais en fait, il y a 80 sénateurs, donc le truc passera, qui ont préparé ce projet de sanctions très dur à l'encontre de la Russie, qui multipliera en fait les sanctions secondaires, c'est-à-dire contre d'autres pays qui continuera à fournir la Russie, Donc là, déjà, on entrerait probablement dans une confrontation supplémentaire entre les États-Unis et la Chine au niveau de ça. Mais surtout, on se retrouverait dans un scénario encore plus proche du scénario du Japon 1940. Vous vous souviendrez que le scénario du Japon, c'est les Occidentaux armés, notamment via le pré-bail, les Américains soutenaient les Chinois. Et via l'embargo, priver économiquement les Japonais des moyens nécessaires à la poursuite de la guerre en Chine, justement. Et c'est tout ça qui a amené les Chinois, les Japonais à escalader, impérialisme revanchard oblige, et à se lancer dans Pearl Harbor, etc. Donc ça, c'est le premier schéma. Si Donald Trump se lance dans la confrontation comme ça avec Vladimir Poutine, pas des frappes, hein, pas l'entrée en guerre des États-Unis, mais sanctions accrues, donc typique, type embargo, plus armement accru de l'Ukraine, l'attaque sur les Pays-Baltes deviendra d'autant plus plausible que ça sera un moyen pour la Russie de jouer son va-tout et d'essayer de briser définitivement la capacité occidentale à aider l'Ukraine. Voilà. Ça, c'est scénario chinois dont je vous parle depuis longtemps. Japonais, pardon. Autre scénario, si jamais Vladimir Poutine, j'en sais rien, d'ici la fin de l'année ou début 2026, que tout d'un coup l'armée ukrainienne s'effondre ou s'effondre partiellement, et que Vladimir Poutine rencontre une victoire stratégique en Ukraine, à ce moment-là, on retombe plutôt sur un schéma à l'Allemagne hitlérienne, c'est-à-dire façon invasion de la Tchécoslovaquie, et ensuite invasion de la Pologne, qui serait lacerée les Pays-Baltes, parce que au-delà de l'Ukraine, encore une fois, le but poursuivi, j'ai déjà dit maintes fois, c'était celui proposé par les Russes en décembre 2021, c'est-à-dire le recul de l'OTAN, comme je viens de le dire. Et donc, en fait, c'est ça les deux scénarios. C'est blocage en Ukraine, je vais dans les Pays-Baltes pour essayer de casser définitivement l'OTAN parce que c'est ma seule chance, sinon c'est moi qui vais m'effondrer à la fin. Autre solution, il gagne en Ukraine. Il va quand même dans les Pays-Baltes pour terminer de casser l'OTAN. Donc, pour moi, on est véritablement là sur les rails de ça. Et ce qui va conditionner ça dans l'année qui vient, en fait, c'est ce que décidera Donald Trump probablement dans les jours qui viennent. Peut-être qu'en fonction de ce qu'il dira, on fera j'en sais rien, un live spécial lundi. Je ne sais pas si, enfin, ça dépendra à quelle heure il fait ses annonces et s'il en fait. Mais c'est ça qu'il faudra voir. De toute façon, voilà, je vous donne clairement le truc. Si jamais Donald Trump allait vers un abandon de l'Ukraine, ce que je ne crois pas à ce stade, parce que la façon dont il évolue, dont il parle sur Vladimir Poutine, etc., ça donne pas le sentiment qu'il voudra laisser tomber l'Ukraine. Surtout qu'il a redit qu'ils en prenaient plein la gueule et que donc il fallait quand même leur donner des patriotes, finalement, tout ça. Donc je n'y crois pas. Mais bon, s'il abandonnait l'Ukraine, ben, ça serait première solution. S'il n'abandonne pas l'Ukraine et qu'il décide de la soutenir, c'est à terme solution japonaise. Mais dans les deux cas, je pense qu'effectivement, à moyen terme, nous allons au clash. Voilà ce que je voulais actualiser ce soir par rapport à tout ça. Juste un petit mot quand même aussi pour dire que, en Europe, il y a aussi un mouvement qui est en train de se faire. Il y a eu la déclaration conjointe, d'ores et déjà appelée, semble-t-il, déclaration Northwood, entre l'Élysée et le Royaume-Uni, qui ont déclaré que. Alors, c'est la suite des déclarations de Shakers de 1995, ça a déjà été déclaré. Et la doctrine, en fait, commune, c'est, je cite le communiqué de l'Élysée aujourd'hui, nous n'imaginons pas de situation dans laquelle les intérêts vitaux de l'un de nos deux pays, la France et le Royaume-Uni, pourraient être menacés sans que les intérêts vitaux de l'autre ne le soient aussi. Voilà. Les États-Unis et le Royaume-Uni et la France s'accordent sur le fait qu'il n'existe pas de menace extrême contre l'Europe qui ne susciterait pas de réponse de nos deux nations. Donc en fait, c'est une idée de coordination nucléaire, de renforcement, si vous voulez, de la dissuasion nucléaire, notamment vis-à-vis de la Russie, en disant que ce sont deux arsenaux nucléaires indépendants l'un de l'autre, mais qui seraient associés si jamais la Russie menaçait cet ensemble-là. Donc en Europe, il y a quelque chose qui se prépare. C'est cohérent, ça explique aussi pourquoi la Russie considère que sur le continent, c'est la France son principal adversaire, tout simplement parce que c'est vrai que bon, la Pologne, ils sont encore une fois en train de se réarmer, mais ils sont un peu dans un creux, ils attendent du matériel qui doit être livré par la Corée du Sud notamment. Et puis derrière, il y a l'Allemagne qui voit à peu près rien militairement. Donc la Russie sait très bien qu'en fait, pour que les États baltes et la Pologne tiennent, les premiers qui arriveraient vraisemblablement, ce seraient les Français. Hein. Sans compter les Américains, bien sûr, mais que si les Américains venaient pas, il y aurait probablement les Français. Donc on est un petit peu aussi l'ennemi à abattre. Et le danger qu'il y a là-dedans, je le répète, le danger qu'il y a là-dedans, c'est que la France, comme l'Europe en général, sont des régimes fragiles, qui ont une lézarde de légitimité, et c'est jamais bon de se lancer dans un conflit direct avec ce genre de lézarde de légitimité. Donc si jamais, et en fait, quand Vladimir Poutine attaquera les États baltes, ça risque d'énormément secouer dans toute l'Europe, et je crains, mais je n'ai pas de raison de revenir sur cette analyse que je fais depuis 3 ans, même depuis avant 3 ans, en fait, depuis 7 ans, c'est-à-dire qu'il y aura... Il y aura vraisemblablement des succès russes importants, temporaires, et qui seront très compliqués à résorber en Europe et qui coûteront beaucoup de vies, beaucoup de destruction, malheureusement. Voilà ce que je voulais dire un petit peu à l'aune de ce qui est ce soir. Malgré tout, je continue de penser que le fait que les États-Unis viennent en soutien de l'Ukraine, c'est quand même une meilleure option, hein, plutôt que le fait que l'Ukraine tombe. Parce que si l'Ukraine ne tombait pas, hein, faut pas oublier que ben, la guerre en Chine, mine de rien, a beaucoup, beaucoup occupé, les Japonais, ce qui a favorisé les mouvements américains dans le Pacifique. Alors que si jamais la Chine était tombée, par exemple, avant que les Japonais se retournent contre les Anglo-Américains, sans doute que la guerre pour les Anglo-Américains aurait été encore beaucoup, beaucoup plus dure contre les Japonais. Et donc, si on se retrouve en guerre contre la Russie alors que l'Ukraine est déjà tombée, la guerre sera beaucoup plus compliquée pour l'Europe que si l'Ukraine continue de tenir et que c'est Vladimir Poutine qui est obligé d'attaquer en plus, d'escalader dans les pays baltes pour essayer de faire tomber l'Ukraine, alors que l'Ukraine continuera de résister, naturellement. Donc cette solution serait quand même, je pense, la meilleure. Dans quelle mesure, c'est toujours difficile, parce qu'après, encore une fois, le schéma de l'impérialiste revanchard complet, vous le voyez, que ce soit au Japon ou en Chine, ou en Allemagne, par exemple, en dernier lieu. Et ça n'a pas empêché le Japon de rencontrer des succès extraordinaires pendant toute la première moitié de l'année 1942, qui a justement beaucoup retardé ensuite l'issue de la guerre, en obligeant à reconquérir un tas de territoires qui avaient été perdus dans les premiers mois. Voilà ce que je voulais raconter ce soir. On va passer éventuellement aux réponses aux questions d'hommes, mais j'en profite pour rappeler que nous avons besoin de votre soutien, qu'il y a beaucoup de gens, encore une fois, je vous dis, entre 5 et 6 000 qui regardent absolument toutes les émissions, quasiment en entier, toutes les émissions gratuites, et qui pourraient nous soutenir. On ne peut pas dire qu'elles ne le font pas. Donc n'hésitez pas à le faire, même si c'est un tout petit truc. Hein. C'est vrai que sur Tipeee, on n'a pas de seuil à 1 ou 2 euros, mais il y a plein de gens qui l'ont fait le mois dernier, de donner juste 1 ou 2 euros, et rien que ça, déjà, ça nous aide. Bien sûr, si vous pouvez donner plus, c'est mieux, surtout qu'après, vous avez les seuils qui vous donnent droit à des contreparties. Mais vous pouvez nous rejoindre, encore une fois, si on était au ratio de soutien par rapport au nombre de viewers qu'on avait en juin l'année dernière, c'est-à-dire qu'avant, on n'avait que 25 000 abonnés à l'époque, maintenant on a 50 000, et donc on a doublé même le socle, on va dire, de viewers. Ben on aurait plus de 500 soutiens, et actuellement vous êtes un peu moins de 400, donc il y a encore de la marge, vous êtes encore un certain nombre. Je sais qu'il y a tout un tas de gens qui peuvent pas payer, je sais qu'il y a tout un tas de gens qui doivent rage-watcher, donc c'est pas grave, mais ceux qui sont là, ceux qui prennent du plaisir, en tout cas, je sais que vous êtes nombreux. N'hésitez pas à nous le montrer avec un petit geste. C'est très important pour nous, surtout encore une fois parce qu'on a des projets pour la croissance de la chaîne à la fin de l'année et que pour ça, il nous faut une visibilité pour pouvoir nous lancer là-dedans. Donc n'hésitez pas et merci bien sûr à tous ceux qui ont déjà rejoint, surtout de manière récurrente parce que ça nous donne une visibilité, c'est extrêmement important et c'est une belle aventure à laquelle vous pouvez participer, il n'y en a pas tellement. Est-ce qu'on a des questions, mon cher Léo?
En ce sens et en lien avec ce que tu as dit, je remercie. On remercie sur Tipeee, Hubert, Louis, Lo, Jonathan. Et c'est tout.
On a eu aussi quelques. Alors moi j'ai du mal parce que quand je vais voir la liste des membres sur YouTube, ça, dès que je descends un peu, ça saute et ça revient en haut. Donc il faut que je me batte, que je nage à contre-courant avec la molette. Nous avons accueilli Violetta Compain, Chrisouka, Anne Thibault, Benoît Louis-Georges, passage au niveau supérieur de Verdi et. Attends, et voilà, et ça y est, ça saute, j'arrive pas à voir au-delà. Adrien Forestier, je crois qu'on ne lui avait pas dit bonjour la semaine dernière. Voilà. Merci à tous de nous avoir rejoints. C'est très important.
Voilà, et en question dont nous en avons une, c'est une question de John Delfo, merci. Il nous dit, selon vous, les cycles historionomiques sont-ils immuables ou les sociétés peuvent-elles influer sur le cours de l'histoire? Quid de la théorie des grands hommes? Merci pour votre travail.
La théorie des grands hommes, alors merci. La théorie des grands hommes, elle voulait que ce soit les grands hommes qui fassent l'histoire, effectivement, qui puissent la changer. Moi, je n'y crois pas parce que je pense que les grands hommes, la plupart du temps, ne sont justement que le produit de leur histoire. Alors, ils peuvent jouer à la marge encore, c'est ce que j'appelle généralement l'histoire contingente, mais ça n'empêche pas qu'il y a la part nécessaire qui, elle, ne bouge pas. Si vous prenez, par exemple, la trajectoire d'impérialiste revanchard de Napoléon Bonaparte, la personnalité même de Napoléon là-dedans, difficile de savoir qu'est-ce qu'elle a eu. Peut-être qu'il avait un génie particulier, sans doute tactique, qui a beaucoup joué. Maintenant, vous vous rendez compte que les succès militaires de la Wehrmacht d'Hitler entre 39 et enfin, les succès sont arrêtés quand? Enfin bon, disons pendant la guerre, ont été d'une ampleur, surtout si vous regardez une carte, ont été d'une ampleur tout à fait comparable à ceux de la France de Napoléon, en fait, hein, mais sur une durée à peu près comparable, parce que vous avez quoi? Vous avez 5-6 ans de beaux succès. Les succès de Napoléon, c'est entre 18. Alors, bon, il y a d'autres succès avant, pendant les guerres révolutionnaires, mais ce n'est pas encore vraiment l'impérialisme revanchard. L'impérialisme revanchard de Napoléon, c'est 1805-1800, ben jusqu'au départ de Napoléon, mais les derniers grands succès, on va dire, c'est l'invasion de la Russie, c'est 1812. Après la retraite, ça devient très compliqué. Et donc, ça dure, ouais, ça dure 6 ans, quoi. Donc c'est les mêmes ordres de grandeur de temps. Alors que d'un côté, on est censé avoir le type qui est le plus génial dans la conduite de la guerre, avec des succès faramineux et en commandant personnellement sur tout un tas de théâtres. Et de l'autre, vous avez bon, Hitler qui avait sans doute pas le même niveau que Napoléon, mais grosso modo, son pays a eu les mêmes succès. Donc vous vous apercevez par comparaison, justement, en regardant tous les différents cas, que ben, ça ne tient pas en fait aux grands hommes, ça tient véritablement au mouvement de masse, et que le grand homme, c'est un peu un type qui surfe sur une vague. Donc vous voyez le surfeur, mais c'est le surfeur va pas plus vite que la vague, en fait, voilà, et ni plus haut. Donc c'est pour ça que je n'y crois pas et que le déterminisme de masse est quand même extrêmement important et qu'il est très difficile d'aller contre ça.
On a fini.
On a fini? Bah écoute, c'est tant mieux. Donc nous allons saluer tous nos chers amis, nous allons partir dans le live privé. Si les gens qui ont regardé l'émission et qui ne sont pas souscripteurs restent sur leur faim et veulent voir d'autres trucs, ben, faites un petit tour sur la chaîne tant que c'est gratuit, comme dirait Monsieur Portal. Et notamment pour l'émission de la semaine dernière et dans la liste des essentiels. Ça fait un moment que je n'en ai pas parlé, mais vous avez ce sont les vidéos qui périment le moins, voilà, qui sont moins liées à l'actualité et qui ont toujours des propos d'analyse qui sont toujours valables et qui vous aideront à mieux comprendre aujourd'hui. À très bientôt.